Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Je suis faite comme ça.
Salut, Charline.
Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats.
Oh, Charline.
Coupe, coupe,
Charline. Pardon, ça va, mais j'écoutais la chanson de notre invité, c'est quoi?
Enfin, mais Danielle Gilbert, c'est pas vraiment une chanteuse.
Pourtant, elle chantait, puis moi je chantais quand même.
Oui, bah c'est bien ce qu'Alexis dit, c'est pas une chanteuse.
Exactement. Bon, Danielle Gilbert, c'est surtout quand même un peu la Charline Vanhoenacker des années 70.
Ah bon?
Ah bah oui, déjà, vous avez la même technique d'interview.
Ah bon?
Bah écoute, comment elle interview Sheila?
C'est pas facile d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui, surtout une femme célèbre comme toi.
Et bam, elle met la réponse dans la question.
Ah, c'est pas facile, Sheila, c'est pas facile, hein.
C'est du Vanhoenacker tout craché.
Ah bah oui,
comme
oui.
Toi, elle fait dire n'importe quoi aux invités. Écoute, Clo-Clo.
D'abord, tu es heureux.
Oui, oui. Enfin, c'est-à-dire que je suis d'autant plus malheureux quelquefois que je me sens d'autant plus heureux d'autres fois.
Ouais, c'est pas clair, hein.
J'ai rien du tout.
Clair. Et enfin, comme toi, elle est passionnée de président centriste.
Et elle leur fait faire n'importe quoi.
Ce qui fait qu'il me reste du temps pour pratiquer mon violon dingue.
Oui, mais ce violon dingue, en fait, ce n'est pas du tout un violon.
Ah, c'est mieux qu'un violon, oui, c'est un accordéon.
Oh, c'est elle, l'accordéon de VGE.
Eh oui, madame, ouais. Ça te place le personnage.
On l'appelait la grande Duduche.
Oui. Ah là, donc moi je serais...
La petite Duduche.
Mignon.
Ouais, ouais.
La petite Duduche.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'Open Space où l'actualité s'épanouit au contact de la blague. Il y a 60 ans avait lieu une rencontre historique, celle du général de Gaulle et du chancelier Adenauer. Ce jour-là, ils ont enterré l'ère de l'affrontement franco-allemand. Vendredi, l'anniversaire de cette rencontre sera sans doute commémoré dans une ambiance sans doute détendue.
On se bourre des quiches et on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée.
Oh, ça va être chouette. La BBC lance une nouvelle émission politique et pour son premier numéro, hasard de la programmation, il n'y avait que des femmes en plateau. Ah bah si. Six femmes, c'est beaucoup trop d'après certains téléspectateurs qui se sont plaints auprès de la chaîne.
Les femmes sont perfides et insalubres. Va laver mon slip, la femme.
L'école doit-elle nous apprendre à être heureux en Inde ou aux États-Unis, le bonheur fait partie du cursus, tandis qu'en France, on parle d'injonction au bonheur, et même il devient suspect, tapis dans l'ombre du néolibéralisme.
Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux ? Il m'a dit qu'est-ce que ça peut vous foutre ?
Ah, voilà. Pour lui, le bonheur, c'est simple comme un moule frite. Toutefois, ça, accompagné d'une blonde, voire d'une fausse blonde. Bonjour Alex Bisserec.
Bonjour Charline Vanhoenacker. J'ai une belle équipe pour vous figurer.
Ah oui.
Ça va, c'est lundi, c'est toujours une belle équipe. À 17h20, celle qui, vu ses horaires et les musiques qu'elle aime, ferait une excellente présentatrice de Minuit Dernière. C'est vous, Mélanie Bauer. Bonjour.
Bonjour, moi je suis une vraie blonde. Aujourd'hui, on va parler de Fred Palen et du sacre du trimpan. Voilà.
Très bien. Mais ça donne envie parce qu'on ne sait pas ce qu'elle
non,
a dit.
Non, c'est pas.
À 17h30, il s'attaque à un sujet improbable pour lui, l'union des droites. C'est comme si Chuck Norris allait régler le conflit israélo-palestinien. Bonjour Guillaume Meurice.
Ça va le faire Alex. Bonjour à tous. Je suis allé effectivement à un meeting de lancement de campagne des jeunes Les Républicains avec donc un micro France Inter.
C'est une radio gauchiste, islamo-gauchiste.
Voilà, donc les jeunes de droite nous écoutent.
Et enfin à 17h40, celui qui prépare une grande tournée dans toute la France avec son spectacle Bon Chien. Il passera près de chez vous, donc préparez-lui un bon sucre. C'est Thomas VDB, bonjour.
Bonjour Alex, et oui, Thomas VDB, c'est moi, et je le prouve en parlant avec ma voix, qui est celle-ci. Et donc moi, je vais vous parler, vous savez que samedi, c'était la marche pour le climat.
C'est vrai.
Mais la question que tout le monde se pose, c'est quel soulier acheter pour aller marcher.
C'est une question que tout le monde se pose. Et, voilà. Et voici celle qui occupe aujourd'hui le perchoir de notre assemblée, élue à l'unanimité. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Ah, je me demande qui je suis. Je suis pas Ferrand, hein. Puisqu'on parle de perchoir aujourd'hui.
Dites-le nous.
C'est Denise Fabre qui est avec
nous.
Ouais.
Bravo.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bon, et puis le nom de famille, c'est un G, hein, c'est deux prénoms.
C'est vrai.
C'est pas original, mais c'est pas un pseudo.
Danielle Gilbert, bienvenue.
Merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un bonheur.
Ah bah écoutez, j'espère.
Enfin
que
pour l'instant.
Bah oui. En plus c'est le sujet 3, Danielle est déjà au taquet. Alors vous publiez un ouvrage qui s'appelle Il faut que je vous raconte, paru chez Talent Édition. Alex Vizorek,
c'était pour
moi, laisse,
c'est
je vous laisse avec Daniel et nous tout autour, évidemment.
Elle a invité et interviewé toutes mes idoles, alors évidemment, j'ai adoré ce livre. Alors, vous parlez de vous, il y a des choses que j'ai découvertes sur vous, la personne, et on en parlera peut-être plus dans le premier sujet. Et puis, évidemment, vous parlez de ces années midi première où vous avez vu défiler tout le monde, mais surtout, j'ai envie de vous dire d'abord, bienvenue chez vous, parce que vous avez commencé sur France Inter, Clermont-Ferrand, en Auvergne.
Oui, parce que je voulais être professeur d'allemand à la faculté, et que j'étais très timide, et qu'un jour, j'ai fait un peu de théâtre amateur avec une copine, et que les gens de France Inter, Clermont-Auvergne, hein, tout ça c'est à Clermont, je précise, en Auvergne, Puy-de-Dôme, hein, au cas où il y en a qui ne connaîtraient pas.
Ou pour les Belges qui nous écoutent.
Oui, oui, très belle montagne, 1465 mètres, et là, ils ont eu besoin de quelqu'un pour remplacer la speakerine de la radio pendant 15 jours. Et ils nous ont fait faire un essai, j'étais là par hasard, et ils m'ont dit « Ah, ben vous pourriez nous convenir ». Je me suis dit « On ne me verra pas, c'est de la radio », parce que j'étais bourrée de complexe.
Vous aviez du flair.
J'étais bourrée de complexe, j'avais une queue de cheval, je ne m'étais jamais maquillée, j'avais jamais mis de collant. J'ai été en blue jean, en parka. Enfin, j'avais rien de quelqu'un qui fait un métier comme ça.
Et vous n'aviez pas de projet professionnel non plus à ce moment-là, apparemment.
Ben si, mon projet professionnel, c'était de faire mon diplôme d'études supérieures.
Ah d'accord, c'est
l'influence
bien,
de Rainer Maria Rilke en Angleterre, que je n'ai pas traité. Mais je compte sur toi pour le faire.
Ben non, j'ai pas eu le temps non plus.
T'as pas eu le temps.
Mais cette maison-ci, la maison de la radio, vous y avez travaillé aussi.
Ah ben bien sûr. Parce qu'après, j'ai été élue par les télés. Je vous passe les détails. J'ai été élue par.
Ça, c'est dans le livre.
Oui, c'est dans le livre. Oh, voilà. Et puis, non, puis, c'est la 23e fois que je le raconte, donc.
Non, mais là, à France Inter. Moment, hein. Ça fait longtemps que vous avez pu parler sur France Inter. Ils sont pas sympas, ils vous invitent pas assez.
De temps en temps, ils m'ont invité. Mais moi, je viens quand on m'invite.
Mais je sais bien,
c'est pour ça que vous êtes là. Je veux pas m'imposer, hein, pas du tout. Hein. Je ne pas aux portes. Je t'attends qu'elle s'ouvre.
Évidemment, là où on vous connaît, c'est la télévision, parce que bien sûr, on voit régulièrement les images.
Oui, j'ai été élue par les téléspectateurs en Auvergne pour être téléspeakerine. Et après, on m'a fait venir à Paris. Et dans les débuts de l'émission qui allait devenir Midi Première, qui s'appelait d'abord Midi Magazine, et avant Midi autre chose. Et donc, on m'a prise comme collaboratrice artistique pour porter les bandes des chanteurs et écrire les conducteurs. Et le premier jour, ils ont eu un bug avec la jeune femme qu'ils avaient choisie comme présentatrice.
Et bim.
Et le producteur me dit... Vous voyez, j'ai besoin d'un docteur. Hein. Et le producteur me dit, mais vous avez présenté, vous ? Oui, oui, oui. Bon, ben, vous allez nous dépanner, mais on vous gardera pas. Voilà. Et ça a duré 13 ans.
Et là, on vous colle Jacques Martin, puis on vous colle Coluche 5 jours.
Oui.
Et puis on vous colle plus personne parce que vous débrouillez très bien. Et c'est parti. Et alors moi j'ai un petit questionnaire. Vous répondez
comme je veux.
Voilà, ouais, comme vous voulez. Ça j'ai bien senti que c'était le cas. mais voilà, juste un nom. Le meilleur client que vous ayez interviewé.
Ça c'est la question bateau, hein, parce qu'il y en a pas un qui ne l'a pas
posé. J'ai dit vous répondez rapidement, s'il vous plaît.
Oui, je réponds comme je veux.
Ah, mais rapidement.
Mais le meilleur client, ça veut rien dire.
Bon, bah le plus mauvais.
Il y en a. Mais il y a pas des mauvais clients.
Ah si, mais bien sûr que si. Moi, je peux vous le dire.
Non, mais moi, je vais vous dire une chose. Quand un client n'est pas bon, comme vous dites, d'abord, c'est pas des clients, on n'achète rien.
Voilà. Ce sont des artistes.
Dès qu'il y a un artiste bon, ne répond pas ou n'est pas et un peu bon, eh ben on compense et on passe à autre chose. Et quand le client, il est très bien. Eh ben, on laisse parler. Bah oui. Je te laisse parler.
Vous n'êtes pas bonne cliente, hein, quand même.
Mais non, moi, je répondrai Daniel Gilbert. Alors, il y en a un dont il y a la réponse dans le bouquin. Donc, si vous me répondez à côté, je vais quand même le dénoncer. Le plus radin.
Un des plus radins, c'est Dev.
Ah. Bim. On le salue.
Mais non, mais je l'adore.
Il est hollandais, c'est normal.
C'est normal, il est hollandais déjà. Mais c'est une Auvergnate qui lui dit, mais comme je suis moitié alsacienne, donc je suis pas une bonne Auvergnate. Mais un jour, il m'a piqué. À l'époque, c'était des francs. Et il m'a piqué 100 francs pour en jouant au Scrabble. Parce qu'évidemment, on disait, oh, on va lui laisser ce mot parce que il est quand même un peu étranger. On va être gentil avec lui. On a été tellement gentil avec lui qu'il a fallu lui donner des sous.
Mais qui vous a fait croire qu'il fallait payer?
Mais parce qu'on avait décidé de jouer de l'argent et on était même à Font-Romeu.
Il y en a un qui je prends l'argent d'elle. C'est Léo Ferré, parce que vous dites que c'est le seul qui a demandé à être payé. Le gauchiste.
Léo Ferré, l'anarchiste. Léo Ferré, effectivement, on était une émission de promotion. Si on voulait avoir par exemple, des musiciens pour un invité, il fallait qu'on rogne sur le décor. Hein. C'était serré, serré, serré. Et
c'est
donc,
comme ça dans le service public.
On payait pas les artistes parce que c'était promotion. Et un jour, je demande à Léo Ferré s'il veut bien venir. On faisait l'émission à Monaco, s'il voulait venir dans le jardin exotique. Et comme lui, il est quand même de là-bas, il était de là-bas, et qu'il habitait pas loin, et qu'il avait des copines un peu plus haut, j'ai dit, voilà, on n'est pas loin de chez vous, est-ce que vous voulez venir ? Il a dit, je suis d'accord, je fais 2 jours, mais je veux tant.
Et ben voilà.
Et c'est le seul qui a été payé. Mais c'est un anarchiste, hein, mais vous savez, l'habit ne fait pas toujours le moine.
Regardez votre voisin qui meurt.
En tout cas, nous, l'hélicoptère est prêt pour la fin de l'émission, hein, pour vous ramener chez vous, comme vous nous l'aviez demandé.
Oui, bien sûr. Oh, ben, bien sûr. Non, mais attendez. J'aurais pu le demander à notre ami Michel Drucker, lui il en a un à lui.
C'est vrai, il aurait pu vous emmener. Danielle Gilbert est avec nous, elle publie « Il faut que je vous raconte », c'est paru chez Talent Édition, et le livre s'ouvre sur la guerre, l'après-guerre, l'Allemagne, etc. On va en parler avec le premier sujet qui nous attend. Et là, la musique, et quand nous sommes ensemble jusqu'à 18h. I put a nickel in the telephone, dial my baby's number, got a busy line. Each time I tried, I got a busy tone, not my baby's number, just a busy line. Called his uncle in Jamaica, left a message with the baker, even checked the number in the telephone book. Got so awfully, awfully worried, to my baby's house I hurried. When I looked inside, the phone was off the hook. And as I walked up to my baby then, I got my baby's number. He was busy in the parlor doing fine, busy kissing someone else, while I was keeping busy getting a busy Murphy, Buzzy Line sur France Inter où il est 17h21 à Paris et à Chamalières. Et autour de la table, il y a Danielle Gilbert
oui,
avec nous.
Et ça rime avec Chamalières. Oh, quelle poétesse.
Oh, dites donc. Et écrivain, vous venez de publier.
Écrivain, il faut que je vous raconte. Non plus, hein, parce que j'écris comme je parle.
Mais vous dites que vous teniez à ce que vous écriviez vous-même. J'ai lu ça.
Ah bah évidemment.
Ah bah voilà, bah donc c'est pas le cas de tout le monde.
Et en plus, pas à l'ordinateur parce que je trouve que le crayon, il prend plus vite le cœur que de taper sur un machin froid qu'est l'ordinateur. Donc j'ai écrit des cahiers et Olga ici présente est
dans ce studio.
C'est notre chargée
elle
de communication.
C'était pas elle qui
elle
devait travailler
pas dit
aujourd'hui.
À son compagnon qu'elle dit.
Alors le livre s'appelle Il faut que je vous raconte, paru chez Talent Édition, et pour entourer Danielle Gilbert, Alex.
Eh bien par ordre d'apparition, Mélanie Bauer, Guillaume Meurice et Thomas VDB.
Et de l'information, Danielle.
Évidemment.
On est au taquet.
Quand le président de la République traîne dans les rues à Marseille, je ne joue pas un épisode supplémentaire de Booba.
Le journal de presque 17h17.
Hypocrite, au nom de la République française, nous ne sommes pas cultes.
Et on commence par les titres.
Ce week-end, Jean-Luc Mélenchon a traité Emmanuel Macron de pire xénophobe, puis il l'a croisé dans la soirée et il l'a démenti l'avoir dit.
Oui, on n'avait plus vu quelqu'un se coucher comme ça devant Macron depuis Nemo.
Richard Ferrand, lui, a remporté l'investiture La République En Marche pour le perchoir dès le premier tour.
Fin du suspense le plus insoutenable depuis l'élection de Marine Le Pen à la tête du Front National.
Il y aura des brèves.
Et là aussi, gros suspense. Oui, oui, il y aura des brèves.
Alors, on était tendu.
Je sais.
Et on commence donc par la rencontre Macron-Mélenchon.
Eh oui, tout le monde s'est moqué évidemment de ce face-à-face mielleux entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Et il a tenté de se justifier par cette phrase.
Je ne rejoue pas un épisode de Booba et Carice.
Oui, et vu comme Mélenchon s'est montré adorable avec le président, c'est moins Carice et Booba que Jackie et Michel.
Et donc, c'est Richard Ferrand qui a remporté l'investiture La République En Marche pour le perchoir dès le premier tour.
Ouais, je veux pas dire, mais le Nouveau Monde, il imite vachement bien l'ancien quand même.
Politique, toujours, selon un sondage.
Exactement, allez-y. Oui. Selon un sondage, la popularité de Nicolas Hulot bondit depuis sa démission du gouvernement.
Ah, et c'est toujours quand on part qu'on est le plus populaire. Ah,
vous savez bien la chose peut-être.
Non, ça ne me concerne pas, moi, mais en politique, je parle.
Et la cote de popularité de François de Rugy, elle a baissé?
Oui, mais non. Hein, quand on parle de cote de popularité, il faut qu'il y ait popularité. Ah, et sinon, ça ne fonctionne pas.
D'ailleurs, 15 jours après sa démission, Nicolas Hulot publiera un livre d'entretien tiré à 20 000 exemplaires.
20 000 livres, soit l'équivalent de 152 arbres, manifestement. Nicolas Hulot n'est pas non plus dans le coup sur la déforestation.
Et le titre du livre, ce serait « Ne plus me mentir ».
Ouais, Léa Salamé a été très déçue parce qu'elle avait proposé ce titre « Merci pour ce moment de grâce » qui n'a pas été
retenu. Passons à cette attaque au couteau cette nuit à Paris, le long du canal de l'Ourcq, dans le 19e arrondissement. Il semblerait qu'il ait été interpellé grâce à cet attaquant, grâce à un joueur de pétanque qui lui a lancé une boule en pleine tête.
Et oui, un sacré coup de chance qu'il ait visé juste quand on connaît le taux d'alcoolémie des joueurs de pétanque. Et si ça se trouve, il visait juste le cochonnet. Et paf, coup de bol, ça tombe sur l'assaillant.
Sport.
Oui, football. Avec l'équipe de France, hier, Olivier Giroud a marqué un but.
Et
c'est drôle déjà quand même.
Oui. Football encore, Adil Rami demande Pamela Anderson en mariage et là, elle le quitte.
Et oui, elle s'est dégonflée.
Non.
Oui.
Ça s'est pas vu.
Télévision, dépassée dans les audiences par Arte, Cyril Hanouna promet des changements dès lundi dans Touche-moi à mon poste.
Ouais, il s'agit du plus beau signe d'espoir pour l'humanité depuis la chute du mur de Berlin.
Mais quels seront les changements pour reprendre des téléspectateurs à Arte?
On a hâte d'être ce soir quand il va demander à Jean-Michel Maire, Benjamin Castaldi et Elisabeth Morisnibosk de jouer dans une pièce de théâtre allemand surtitrée. Il y a des fanzous qui vont faire une rupture d'anévrisme.
Bref,
Kim Kardashian sera en train d'apprendre le droit. Alors pourquoi pas, enfin le plus dur pour elle, si elle devient avocate, ce sera de porter une robe plus longue que celle qu'elle porte d'habitude.
Et la dernière brève?
Et la dernière, c'est impensable. À Gênes, ce week-end, la maquette du nouveau pont de Gênes s'est cassée durant la conférence de presse de présentation. Et c'est bizarre, pourtant le concepteur de la maquette avait tout prévu.
Je vous parlais tout à l'heure des problèmes de portance. Eh bien, dans un ouvrage comme celui-ci, c'est la grande question, les problèmes de portance. Mais commençons par le début. Qu'est-ce qu'un pont suspendu? Si l'angle entre les allumettes n'est pas calculé au dixième de degré, c'est foutu.
Et voilà.
À un dixième de degré près, vous rendez compte?
C'est un problème de portance.
Un extrait du Dîner de cons. Merci Alex Vizorek. Nous sommes avec Daniel Gilbert dans ce studio à la Maison de la Radio et abordons ce premier sujet qui a trait aussi à l'ouverture de votre livre « Il faut que je vous raconte ». Il y a 60 ans, le chancelier Adenauer rencontrait pour la première fois le général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. La commune s'en souviendra vendredi, car on sera le 14. Adenauer a passé deux jours en tête-à-tête avec de Gaulle dans la maison de Colombey, donc la maison privée. 13 ans après la fin de la guerre, il marquait le début d'une amitié, je dirais plus intime, entre les deux pays. Tante Yvonne avait sorti la vaisselle de tous les jours. La rencontre était pourtant historique. Depuis, cette amitié a fait du chemin. Écoutez.
Junge Damen, Junge Herren, aus Deutschland, aus Frankreich, aus ganz Europa, Ihre Rolle ist es nun dem europäischen Traum Wirklichkeit und Zukunft zu verleihen. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
François Hollande en octobre 2012. Alors, vous qui avez fait des études d'allemand,
oui.
Là, on n'est pas sur un gros niveau.
C'est pas un... non sur le plan en plus c'est très lu et, oui, et sur oui. le plan prononciation là il y a un petit peu de boulot.
C'est zéro. Bon,
il y a alors... un peu de corésien dedans.
Daniel Gilbert, vous rappelez que votre papa était résistant, qu'il a été déporté, qu'il en est revenu. Est-ce que et ensuite alors faut expliquer que donc cette réconciliation très très intime parce que le Adenauer va chez De Gaulle, il se rencontre pour la première fois, il passe 48 heures ensemble, c'est ce qui permettra d'arriver au traité de Versailles en 63, 5 ans plus tard. C'est ce moment qui, semble-t-il, historiquement, enterre véritablement l'affrontement franco-allemand. On n'est plus dans le revanchisme, etc. Ça se passe en 58. Vous, peu de temps après, quelques années plus tard, vous partez comme jeune fille au pair en Allemagne. Oui. Vous avez étudié l'allemand. Est-ce que c'était une période où c'était encore assez frais d'aller en Allemagne? Est-ce que ce genre de geste du couple franco-allemand, c'est ce qui vous a aussi permis de faire ça sans que ce soit
pas du tout,
sans que ce soit mal vu?
C'est l'état d'esprit de ma famille. On n'a jamais été des revanchards dans la famille. Mon papa est revenu de Dachau. Il avait 30 ans. Il mesurait 1m60. Il pesait 25 kilos, il ne pouvait plus travailler. Mmh. Et c'était l'être le plus joyeux que je connaisse et qui, je pense, connaissait le prix des vrais petits bonheurs de la vie. Je sais qu'on va parler du bonheur oui. tout à l'heure. Mais lui, il en avait tellement bavé qu'il connaissait le prix de la vie et des petits bonheurs. Et maman était alsacienne et moi, la langue allemande me plaisait. Mais et donc je suis allée en Allemagne, mais c'est pas du tout parce qu'il y a eu la rencontre ou quoi que ce soit, ça n'a pas du tout été influencé par ça. Mais regardez Simone Veil avec ce qu'elle avait subi, mm-hmm. comment elle a été tout de suite oui. vers les Allemands. Je veux dire, c'est une question humaine, ça dépasse même la politique. C'était un très beau geste, hein, la mm-hmm. politique, oui. ça représentait quelque chose. Mais moi, des années après, j'ai des gens qui m'ont quand même dit. Oh, Daniel, vous avez fait une licence d'allemand, mais comment vous avez pu faire une licence d'allemand? Bah, j'ai dit parce qu'un être humain, c'est un être humain. Les êtres humains sont des êtres ouais. humains.
C'est pour ça que je vous parlais de l'exemple politique, parce qu'il y a, au sortir de la guerre, c'était peut-être mal vu de faire ce genre de geste. Ou
ah,
d'aller...
Bah, peut-être, mais bon, moi j'étais
et
d'abord.
Quand l'exemple est donné au niveau de l'État et qu'il y a un rapprochement intime, parce que tante Yvonne avait quand même sorti la vaisselle, bon. et les bonnes bouteilles de pinard.
Elle lui a fait une choucroute,
t'es ravie. Non, mais la revanche. Et alors, expliquez-moi aujourd'hui si ça a servi de leçon. Il n'y a pas de leçon.
J'allais vous le demander.
Les oui. gens, ils n'arrêtent pas de se battre, de s'entretuer de plus en plus. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils s'entretuent même verbalement, même mmh. par jalousie, même sans se tuer oui. vraiment. Et je veux dire, il y a tout le temps des affrontements. Alors que je pense que l'humanité, moi je suis très bisounours peut-être, mais pour moi l'humanité, une famille, un pays, c'est comme une équipe, c'est une véritable équipe. Les talents s'ajoutent, comme dans votre émission, ils s'ajoutent pour faire quelque chose de très bien qui va rejaillir sur tout le monde. Et je pense que c'est comme ça partout et qu'on n'a pas à s'affronter en permanence parce que de toute façon, on risque d'avoir un viaduc qui vous tombe sur le coin de la figure sans l'avoir attendu et que tout de toute façon, on se retrouvera tous, ou pas, quelque part, tous ensemble.
Mais vous êtes de gauche, Daniel, vous n'êtes pas du tout giscardienne.
Mais j'ai jamais dit que j'étais giscardienne.
Mais non, mais les gens sont mauvaise langue.
Mais je ne suis ni giscardienne, ni de gauche. Et en plus, vous savez bien que moi, ça fait un moment que je dis qu'il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche.
Vous êtes macroniste, bon. Attention.
Comment?
Vous êtes macroniste.
Je suis rien, moi. Je suis rien, je suis humaine. Moi, j'aime les gens. Il y a des gens qui sont super, puis il y a des gens que j'aime pas. Voilà.
Daniel Gilbert avec nous. Et donc, vous rappelez tout cet épisode, évidemment, à l'ouverture de votre livre. Hein. Il faut que je vous raconte, paru chez Talent Édition.
Et je crois d'ailleurs que c'est mon père qui m'a donné le goût des autres. Mmh. Et qui m'a donné l'idée que finalement les plus jolis bonheurs, c'est de partager avec d'autres, de parler avec toutes sortes de gens, c'est ça enfin,
c'est
ce qui est formidable dans ce métier, ouais. c'est qu'on peut parler avec tout le monde et tout. D'ailleurs, moi, je ne me considérais pas en faisant l'émission, puisque la question ne m'est pas posée.
Non, mais posez les questions que vous voulez, hein, comme ça.
Ouais, comme ça, je me pose les questions.
Vous ne me considérez pas comme animatrice, c'est ça?
Oui, mais je ne me suis jamais tellement considérée, d'abord parce que je ne m'étais pas projetée là-dedans, je n'ai jamais eu envie qu'on me connaisse. Moi, j'ai l'impression d'être en France comme dans la rue de mon enfance, où je connaissais tout le monde, simplement, ma rue de mon enfance, elle est plus grande et les gens sont un peu plus nombreux. Et quand je faisais l'émission, pour moi, j'étais comme une téléspectatrice privilégiée qui a été un peu plus près des gens que les gens ont envie de connaître, c'est tout. Et c'est pour ça que je trouve que la vie est très simple et que finalement, une émission de télé, une émission de radio...
Attention, on va essayer de vous couper.
Ah oui,
ouais, ouais,
je vais aller jusqu'au bout de la phrase. Et bien pour moi, c'est simplement une pièce supplémentaire dans l'appartement de ma vie.
Et nos auditeurs vous auront bien entendu.
J'ai fait point.
Oui, j'ai bien senti.
T'as remarqué le belge.
C'était brillant.
Alors, avec une majuscule, ouvrons la chronique de Mélanie Bauer.
Ah ouais, ça donne envie de vous faire des bisous, hein, tout ce que vous dites. Bisous.
On va survivre tout ça après.
Alors, chacun vit la nostalgie à son rythme. Le romantisme a ses raisons. Il y a ceux qui écoutent en boucle depuis 30 ans les mêmes tubes des années Brushing et Épaulettes. Et puis, il y a les véritables explorateurs du temps, comme Fred Palem. C'est un gourmand, Fred Palem, et surtout un arrangeur de génie. Il y a 20 ans cette année, il crée son orchestre de jazz, le Sacre du Tympan. Hommage, bien sûr, au Sacre du Printemps de...
Stravinsky.
Igor Stravinsky.
Bravo. C'est pas le deuxième prénom non plus. Elle était dégoûtée qu'on ait trouvé le nom de famille. Oui, mais le prénom, c'est quoi? Son signe astrologique.
Un big band, donc, dont il est le seul membre permanent avec des tas de musiciens virtuoses du conservatoire dedans. Avec sa tribu, il revisite des héros de la musique, comme le compositeur pour le cinéma et la télévision, François de Roubaix. La douce voix de Catherine pour ce programme culte des années 70. Chapi, chapeau, les références de l'enfance. Il adore Fred Palem. Un des albums du Sacre du Tympan, Cartoons, reprend aussi des thèmes de dessins animés comme Goldorak ou encore Blind Test. Attention, là, c'est facile. Stravinsky.
Non, mais on connaît que ça. Ah bah oui, c'est Tim Burton, ça. C'est Beetlejuice.
Bah, alors,
non, c'est les Simpsons,
oui.
Là.
Quand
ça,
même
c'est tellement pensé, ouais, ça arrive de nulle part, on pense à Beetlejuice.
Inépuisable.
Et à Stravinsky aussi, je tiens à dire.
Inépuisable arrangeur et nostalgique du bon son, Fred Palem est sollicité par tous les grands artistes français de la chanson, Aznavour, Julien Doré, Michel Legrand, Mélodie Gardot, etc. Mais ce qu'il aime le plus, c'est réécrire inlassablement l'histoire de la musique. Il y apporte sa patte, sa contribution au souvenir. L'année dernière, il sortait Soul Cinema, reprenant de grands thèmes de la Blaxploitation, le cinéma black des années 70, toujours avec le même respect et enthousiasme du tympan. Reprise de Roy Ayers sur la BO du film Coffee. Bon, la nostalgie, ça a du bon, ça réchauffe le cœur comme un bon cassoulet, mais à force, c'est écœurant. Hein. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que le nouvel album de Fred Palem, c'est un disque de nouvelles compositions originales, l'Odyssée. Un album qui sort début octobre et que Palem présentait le 8 septembre dernier à Jazz à la Villette, avant une tournée en France avec une nouvelle formation, un quatuor à cordes et puis quelqu'un qu'on aime beaucoup à France Inter, le saxophoniste Thomas de Pourquerie.
Oui.
C'est funky, c'est savant, c'est instrumental. Fred Palem, l'Odyssée.
Palen, mais le Sacre du Tympan.
Oui, ça fait bien voyager dans le temps, non ?
C'est joli.
C'est joli comme tout.
Voilà. Merci beaucoup, Mélanie Bauer. Nous sommes toujours sur France Inter, on n'a pas bougé, avec Danielle Gilbert, qui nous accompagne. Elle publie un livre, Il faut que je vous raconte. Il y en a des choses à nous raconter, on va avoir l'occasion d'en reparler très rapidement. C'est paru chez Talon Éditions. Et avant de revenir avec vous, Danielle Gilbert, et de parler de télévision par le truchement de la BBC, accrochez-vous. Parce que maintenant, c'est Guillaume Meurice. Accrochez-vous.
Oui, je vais vous parler de l'union des droites aujourd'hui. Non, pas Giscard, pas Giscard. Calme-toi, Daniel, ça va bien se passer.
Fou, moi. Hey, tu veux l'union que je te dise quand même, une petite parenthèse. Bon, ce que je dois à monsieur Giscard d'Estaing, c'est d'avoir été viré de la télé.
Bah oui, c'est ça. Maintenant, vous avez du temps libre.
Et d'être né à Chamalières.
C'est vrai, big up à ceux qui nous écoutent là-bas. Union des droites entre les Républicains et le Front National, qu'on appelle aujourd'hui le Rassemblement National. Parce que je vous rappelle que quand on peut pas changer d'idée, on change les mots. Par exemple, on ne dit pas « je suis un être insipide au service de ma propre lâcheté », on dit « je suis... »
François de Rugy.
Pragmatique, Charline, pragmatique. Mais c'était pas loin quand même. Et ces droites se sont unies à l'occasion du début de campagne pour l'élection des jeunes Les Républicains à un meeting d'Éric Tegner. Éric qu'on connaît puisque c'était le leader, je vous jure, c'est pas une blague, des jeunes avec Calmels.
Oui,
voilà,
vrai.
Pourquoi s'emmerder et écrire des blagues, hein. La réalité est beaucoup plus drôle. Alors évidemment, j'étais à ce meeting, hein, hors de question de rater ça, c'est un petit peu Noël avant l'heure. Alors quand je dis union des droites, il y avait pas seulement le Rassemblement National, mais aussi Nicolas Dupont-Aignan et bien entendu ses jeunes fans.
J'aime bien son honnêteté, vraiment, c'est tout.
Ouais.
Son honnêteté, je sens que c'est un mec sincère.
Est-ce qu'il est sincère dans son retournement de veste ?
C'est-à-dire ?
Bah, quand il rejoint Marine Le Pen entre les deux tours de l'élection, par exemple.
Mais c'est pas un retournement de veste, ça.
Il a quand même vachement critiqué Marine Le Pen au tout début de la campagne, quand même.
Mais à l'époque, je m'intéressais pas à ça.
Ah, voilà.
Donc, je découvre.
Donc maintenant que je vous le dis, vous êtes déçu ou pas ?
Non.
Non, bon, c'est bien, c'est bien. Je l'aime pour son honnêteté, mais s'il est malhonnête, je m'en tape. Le fan club de Richard Ferrand approuve ce message. Et puisqu'on parle de malhonnêteté, c'est vrai qu'un meeting de droite, ça ressemble quand même pas mal au salon du casier judiciaire. Et figurez-vous que j'ai rencontré Charles Millon, je ne sais pas si vous voulez, qu'on
sûr.
Est appelé à l'époque le Millon, depuis qu'il avait été condamné pour prise illégale d'intérêt. Et Charles, c'est un avant-gardiste dans le domaine de l'union des droites, puisqu'il avait été élu grâce aux voix du FN il y a quelques années en région Rhône-Alpes. Et là, évidemment, il soutient Éric corps et âme.
Je ne cherche pas des adhérents, je cherche des personnes qui défendent des convictions communes.
Et quelle est votre proposition préférée dans le programme d'Éric?
Oh, mais ça, non, mais je ne peux pas vous dire. Parce que d'abord, je ne connais pas assez bien son programme.
Ah bah mince alors.
Non, mais je partage son faisceau de convictions. Je ne vais pas faire une analyse.
C'est au niveau du faisceau alors, plus. Il n'y en a pas une qui vous vient à l'esprit.
Je crois que vous n'avez toujours pas compris ce que j'ai dit.
Si, j'ai pigé, Charlie. T'as pas lu le programme, t'as juste dit, tiens, il y a des petits fours et des réacs. J'en suis. Et il y avait des réacs assumés. Je vous dis, il y avait Paul-Marie Couteau.
Ah, oui,
c'est vraiment une des figures de la droite conservatrice. Mais bon, là, le problème, c'est qu'il est plus tout jeune. Disons qu'un 400 mètres haut entre lui et Gérard Collomb, il y a suspense. Voilà. Enfin, on sait que l'arrivée est prévue dans 3 mois, mais on ne sait pas qui va gagner.
Je parle pas trop d'âge, quand même.
Oui, pardon.
J'aimerais éviter de perdre le moral.
On fera un 400 mètres haut à vous trois, on verra. Alors, Paul-Marie, évidemment, il est pour l'union des droites. Hein.
Je pense que les générations futures nous traiteraient vraiment d'imbéciles si on continuait à s'invectiver d'un parti de droite à un parti de gauche, alors que quand on a d'un parti de droite à l'autre, pardon.
C'est un bon lapsus.
Non, parce que si la droite n'est pas elle-même, c'est qu'elle a été colonisée intellectuellement par la gauche.
C'est vrai ?
Oui, mais le progressisme, je suis désolé, c'est une valeur de gauche, le progressisme infernal a été repris tel quel et est repris en grande partie par des gens de droite qui n'arrivent
pas à penser. Qui, par exemple ?
Bon, écoutez, je pense à la présidente de l'Île-de-France.
Oh putain, Valou, j'en étais sûr.
Oh, là.
Pécresse la gauchiasse. Je l'ai vu mettre des bouts de merguez sur ses blinis. Je suis sûr qu'elle a au moins un de ses domestiques qui est pas sans papier, ça me dégoûte. Continuons avec Paul-Marie, quelles sont encore les valeurs de gauche reprises par la droite ?
L'égalitarisme, la liberté infernale qui devient un libertarisme, tout ça, ça a été repris par une partie de la gauche. Parle de la droite.
Et vous voyez, vous avez du mal à vous y faire. Hein.
Oui, parce que c'est bien ce que je dis.
C'est compliqué.
Confusion intellectuelle, confusion presque mentale.
Ouais, confusion mentale, hein, depuis pas mal d'années chez Paul-Marie, qui a commencé socialiste quand même, pour finir chez De Villiers, en passant par Fillon en 2017, qu'il a soutenu. Enfin voilà, il est souple, hein, il a les adducteurs solides.
D'ailleurs, il aime les voyages.
Il aime les voyages, pourquoi pas, après tout. Hein. D'ailleurs, attends, il a bossé avec Fillon. Est-ce qu'il a des nouvelles de Fillon ?
Ah. Bon, je crois qu'il va très bien. Si, j'en ai, bah, directement, je crois qu'il va très bien.
Il va bien ?
On peut vivre sans politique, vous savez.
Il va rendre l'argent ou pas ?
Enfin, il a, c'est l'homme de la Terre le plus honnête. Enfin.
Ah, François Fillon ?
Oui, oui.
Ah bah mince, ça c'est un scoop.
Ah oui, c'est un scoop.
Ah bah putain, c'est un putain de scoop. Fillon, c'est le mec le plus honnête de la Terre. Je voudrais bien voir la liste des fréquentations de Paul-Marie Couteau. Le mec, comment il bouffe avec la mafia tous les soirs. Alors terminons quand même avec la star du soir, le fameux Éric Tegner, qui lançait sa campagne, je dirais, dans la plus grande des décomplexitudes.
C'est pas l'extrême droite ici, il y a un jeune sur deux qui est venu qui dit qu'il vient d'aucun parti. L'extrême droite aujourd'hui, je pense qu'en France, elle n'existe plus.
Il y a Nicolas Dupont-Aignan quand même et Sébastien Chenu.
Ouais, Nicolas Dupont-Aignan, Sébastien Chenu qui vient de l'UMP, tout comme chez les Républicains, on a Guillaume Pelletier en numéro 3 qui vient du Rassemblement National. Vous savez, moi je suis juste en train de montrer qu'en fait tout ça c'est une grande arnaque intellectuelle, que les LR, le Rassemblement National, c'est devenu la même chose.
Et ben voilà, mais ça fait du bien de l'entendre, ça m'évoquait en PLS et Ciotti sous assistance respiratoire. Copé en a rêvé, Eric l'a fait, on appelle ça la droite décomplexée, mais aujourd'hui évidemment on appelle ça plutôt l'extrême droite.
Alors si je pouvais dire quelque chose,
ah bah oui, Daniel.
Je ne comprends pas pourquoi on s'enquiquine en France à avoir des hommes politiques, des partis, des machins, des alliances et des trucs, alors que vous, les Belges, puisqu'il y a des Belges dans ce studio, vous avez très bien vécu en Belgique, sans gouvernement.
C'est vrai.
Eh ben, on va proposer ça à Edouard Philippe. Je pense qu'il est dès ce soir.
Ouais. Proposer de se mettre un petit peu en congé. Il a besoin de se reposer, de toute façon.
Oui, oui.
On dirait que c'est votre proposition, Daniel Gilbert. Nous, on n'y est pour rien. On va aborder cet autre sujet avec vous avant d'écouter Thomas VDB. Pour le premier numéro de sa nouvelle émission politique, la BBC Two a invité les meilleurs experts. Résultat, en plateau, 6 femmes, aucun homme. Le hasard de la programmation, explique la BBC, qui a choisi les intervenants qu'en fonction de leur qualité d'expertise et de leur disponibilité, bien sûr. Et voilà que les téléspectateurs ont crié au sexisme. Alors, petit rappel de ce qu'est le sexisme.
Je trouve que tu as été sensationnel. Génial. Vraiment, je savais pas que tu pouvais arriver à parler comme ça, tu vois. Pour moi, c'est une découverte, ça. T'aurais dû être actrice au lieu de faire la pute.
Tu vois, ça m'est jamais venu à l'esprit. C'est pas très gentil de me charrier.
Je te charrie pas, je te garantis que c'est vrai.
Seulement, ce que t'as pas compris, c'est que c'est pas du théâtre, tout ça. Oh. C'est sérieux.
Bah, écoute, moi, j'avais l'impression d'être une fête de patronage. En tous les cas, j'ai l'impression aussi que vous êtes bien marré.
On peut se marrer, puis ça peut être sérieux quand même.
Nicole Courcelles, Lino Ventura dans L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. Voilà pour cette première émission politique qui a eu lieu le 3 septembre sur la BBC Two. Et les 6 experts en plateau étaient des femmes. Et donc, il y a certains téléspectateurs ont gueulé.
C'est ça.
Alors, est-ce que c'est, Daniel Gilbert, est-ce que c'est aussi gênant d'avoir 6 femmes en plateau que d'avoir 6 hommes? Est-ce que c'est embêtant de ne pas avoir de mixité? Et comment vous voyez la chose, vous? Est-ce que vous auriez gueulé?
Non, parce que j'ai autre chose à faire. Non, mais je pense que, bon, c'est vrai que de vouloir mettre 6 femmes, parce qu'on parle toujours égalité homme-femme, etc. Il y a que des hommes, alors on va mettre 6 femmes, parce que c'est ça quand même en fond. Ouais. Je trouve pas ça très intelligent. Et j'ai toujours pensé que nous étions complémentaires, hommes et femmes, et non pas en lutte permanente.
Ouais, oui.
Alors non, là, bon, il y avait 6 femmes. Oui, c'est pas fait exprès.
C'est pas fait exprès.
C'est sûr que c'est pas fait exprès.
Moi, je suis comme Daniel. Je pense que c'est un coup fourré. C'est un coup fourré.
Est-ce que vous, quand vous êtes arrivé, ça a suscité ce genre de réaction? Les femmes à la télé. Alors, il y avait beaucoup de speakerines quand vous étiez là, mais vous,
j'étais la première à faire une émission. Non, mais puis de toute façon, on faisait l'émission tous les jours en direct, moi, j'avais pas le temps de me promener dans les couloirs, donc j'entendais pas ce qui se disait et je faisais que l'émission. Il y avait que ça qui m'intéressait.
Vous traciez tout droit. Aujourd'hui, à l'époque de la révolution féministe, de MeToo, etc., on se dit oh là là, que peut-être dans ce milieu machiste. Vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres, ou peut-être mal le vivre et pas vraiment.
Ah, pas du tout, moi je vis très bien.
Pas du tout.
Je vis très bien, puis je vous dis, je n'aspire pas à avoir un pouvoir ou pas de pouvoir, ou être comme les hommes ou pas comme les hommes, etc. Je m'accommode de ce qui se présente, je suis très adaptable.
Et vous-même, vous n'avez harcelé personne. Mike Brandt, Discretos, un petit coup sur le cul, tranquille.
Mais vous étiez essentiellement entouré d'hommes à la télévision.
Il y avait beaucoup d'hommes en technique, il y avait beaucoup, mais il y avait quelquefois une femme cadreur par hasard. Par hasard.
Par hasard. Bah voilà, c'est toujours le hasard, nous, hein, Jean-Marc. Ça, c'est un petit peu le.
Oui, non, mais il faut dire aussi une chose, qu'il y a des métiers que les femmes n'ont peut-être pas envie d'exercer aussi. Il y a moins de femmes qui ont envie d'exercer tel ou tel métier. Mm-hmm. C'est tout. C'est vrai que je trouve que quand il y a eu un speakerin, je trouvais ça un peu décalé parce qu'un mec speakerin, c'est pas tellement son rôle.
Hein. Enfin, vous avez fait ça quand même longtemps avec la coupe de cheveux de Plastique Bertrand. C'est vrai
que, de Plastique Bertrand.
Au niveau des cheveux,
il va s'en prendre une.
Tu vas t'en prendre une, Thomas. Ouais, mais non, parce que moi j'avais la coupe au bol.
Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai.
Oh, t'as pas de mémoire.
Je suis trop jeune.
Avant de lui mettre une tarte, on va peut-être écouter d'abord sa chronique. Daniel Gilbert, voici Thomas VDB.
Alors, bonjour à tous. Donc, déjà, je rappelle que samedi, il y avait la marche pour le climat. Yes! Soutien! Quelle belle mobilisation. Alors moi, j'ai pas pu y aller, mais psychologiquement, je peux vous dire, j'y étais. Et d'ailleurs, c'est vrai que sur Facebook, j'avais vu passer l'événement et j'avais même cliqué sur intéressé.
Voilà. Oula! Quel effort!
Voilà, j'ai préféré aller acheter des chaussures parce que marcher, c'est bien, mais bon, mais quoi comme grolle? Ah ben, on sait pas, voilà. Alors donc, en passant chez Nike, j'ai découvert Colin Kaepernick, qui est donc la nouvelle égérie de la marque. Alors avant de parler de ça, j'ai d'abord peut-être rappelé ce que c'est une égérie. C'est quand une égérie, c'est quand une personne connue accepte de prêter son image à une marque, même si bon, il faut dire que le mot est surtout utilisé par des marques prestigieuses. Hein, c'est vrai qu'on dit jamais Catherine Deneuve, elle a joué dans la pub Chanel. Hein, on dit Catherine Deneuve est égérie Chanel.
Oui.
Hein, tandis qu'on dit rarement Véronique Jeunesse est égérie Madrange. Hein, pour les gens, bon, on le dit rarement, ça. C'est vrai.
Oui, alors, mais au résultat, ça doit être pareil, voilà, sur le plan porte-monnaie.
Je suis d'accord, mais enfin, c'est vrai qu'on dit Véronique Jeunesse, elle a joué dans la pub Madrange, c'est ça qu'on dit. C'est vrai qu'il faudrait être logique, soit on dit égérie pour tout le monde, soit on le dit pour personne. Bon, sinon il y a Tom et Jerry aussi, mais bon,
ça c'est pour ton fils.
Ça c'est brillant.
Alors donc Colin Kaepernick, c'est un joueur de football américain qui s'était agenouillé avant un match de football américain pendant l'hymne l'année dernière. Alors moi, c'est vrai qu'au début j'avais pas trop compris parce que je connais mal les règles du football américain. Je croyais que ça voulait dire un truc genre genou à terre, balle au centre. Voilà, bon, ça voulait pas dire ça en fait, parce qu'en fait Colin Kaepernick avait fait ça pour protester contre les violences policières faite aux Noirs. Alors le pauvre Kaepernick s'est fait virer de son équipe en se faisant insulter par Donald Trump et tout ça, et donc Nike a choisi de prendre sa défense. Ils ont mis sa tête sur la nouvelle pub en noir et blanc, et là il y a écrit en gros « Croyez en quelque chose, même si cela signifie tout sacrifier ». Alors, je vois pas énormément le rapport entre la phrase et le fait de s'acheter des chaussures. Voilà, hein, c'est vrai que c'est pas la phrase qui me le ferait le plus acheter des chaussures dans la vie, je veux dire. Hein, c'est vrai que s'il y avait eu écrit « Les Nike ont des lacets qui tiennent vraiment très bien ». Là, oui, d'accord, là, j'achète éventuellement. Et donc, ce choix de Nike de choisir Kaepernick comme égérie a créé donc une polémique énorme qui a poussé tous les pro-Trump à brûler leur paire de Nike et tout ce qu'ils avaient de Nike chez eux. Ouais! Chante, brûle tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras, bien, brûle tes baskets, c'est rigolo. Voilà. C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des gens de droite qui brûlent leur Nike. Parce que c'est fou, parce qu'on sait que depuis longtemps, les horribles conditions de travail des ouvriers de Nike en Asie, on sait que même moi, quand je faisais une heure de jardinage pour ma mère quand j'avais 10 ans, j'étais mieux payé à l'heure. Hein, et donc, pour lutter contre ça, on sait que le boycott de Nike, c'est un truc qui a toujours été plutôt initié par les gens de gauche. Mais aujourd'hui, il y a aussi des gens de droite qui brûlent leur Nike. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui brûle ses Nike, on dit « Yes, tu brûles tes Nike contre l'exploitation des ouvriers en Asie !» Le mec, il dit « Non, moi, c'est contre le noir qui s'était accueilli pendant l'hymne américain. » Ah, d'accord. Bon, bah, tu brûles tes Nike, quand même. Voilà, c'est vrai qu'on ne sait plus trop, finalement, pourquoi les gens font. Alors, c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'il faut plutôt acheter des Nike aujourd'hui pour lutter contre les violences faites aux Noirs, ou est-ce qu'il faut boycotter Nike contre les conditions de travail des ouvrières vietnamiennes? Alors, je vous laisse répondre tout seul à cette question en sortant ma carte joker, parce que je n'ai pas dit, mais j'ai un très bon jeu depuis tout à l'heure. J'ai la carte clash d'opprimé. Ouais, la carte clash d'opprimé qui me permet de ne pas avoir à prendre position et chacun réfléchit comme il veut là-dessus. En tout cas, à cause de tout ça, tu te rends compte que Nike aujourd'hui, ils sont mal vus à droite, ils sont mal vus à gauche. Il y a des grosses parts de marché à prendre dans l'électorat de François Bayrou. Mais je suis quand même pour le plaisir aller regarder des vidéos des Américains qui brûlent leur paire de Nike. Alors c'est marrant parce que quand tu vois un Américain qui grille ses Nike sur un barbecue, le premier truc qui vient en tête, c'est le problème de la malbouffe aux États-Unis. Bon, alors on dit, ça c'est autre chose. Mais les gars, c'est quand même des gros racistes. Alors c'est quand même assez tragique de les voir faire ça, mais c'est vrai que quand on regarde les vidéos, c'est dur de pas rigoler. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu un gars qui brûle ses effets personnels intentionnellement de colère, c'est très rigolo. Là, j'ai même l'impression que plus le gars a payé cher les trucs qui brûlent, plus c'est rigolo à regarder.
Mais ça veut dire qu'il a des sous pour s'en racheter.
Voilà, mais le gars est quand même bien rageux devant la caméra, il a $200 the sneakers, fuck you Nike. Et on a, ben non, Nike fucks you. Parce que ouais, you have been naked two times. Ouais, parce que t'es Nike, t'aurais pu les revendre. Voilà, et puis, je sais pas, t'achetais un marchand de panneaux, t'achetais un panneau fuck you Nike. Ou à la rigueur, je sais pas, si t'es vraiment con et que t'es vraiment en colère contre Nike, mais que, admettons, t'as rien de Nike chez toi à brûler, bah, tu vas t'acheter des Nike et tu les brûles. Bah ouais, vu que t'es vraiment con. Bah voilà, c'est ça qui est bien. Parce que c'est vrai que quand tu brûles des chaussures à 200 euros, la bulle d'air est davantage dans la tête que dans la chaussure. Voilà. Mais encore mieux que les Américains qui brûlent leur Nike, j'ai trouvé sur Internet des Français qui brûlent aussi leur Nike. C'est-à-dire des Français qui jettent des produits américains pour protester contre un joueur de football américain, alors qu'ils connaissent pas non plus les règles, qu'ils s'agenouillent lors de l'hymne américain. Les gars, j'ai qu'un conseil à leur donner, les gars, déménager aux États-Unis. Voilà, n'hésitez plus, just do it.
Merci beaucoup, Thomas VDB. Thomas en très très grande forme, et ça tombe bien, j'annonce votre passage à Dourdan, dans les ce sera le vendredi 21 septembre au Centre culturel de Dourdan. Merci Thomas VDB. Daniel Gilbert avec nous, qui pendant votre chronique a vérifié ce que vous portiez au pied.
Oui, mais j'ai pas pu voir.
Ah, comment ça se fait?
Parce que c'est un peu sombre.
Ah, c'est des souliers.
Ah, il a des chaussures en cuir.
Ah, voilà.
Oh, d'accord. Les pauvres bêtes.
Je suis bien d'accord, Daniel. Bien.
Bravo. Parce que Guillaume a des chaussures vegan.
Exactement. Et voilà. Hop là. Ah, ça calme bien tout le monde, ça.
Vous voir, qu'est-ce qu'elles ont de vegan?
Bah, il n'y a pas d'exploitation animale dans mes chaussures.
Ah ouais. Moi non c'est plus, c'est recyclé. Du plastique, moi.
Eh bah voilà.
Ah bah oui, alors le plastique. Oui, alors, plastique.
Oui, mais en bambou, c'est difficile. Hein.
Ouais. Oui, en bambou, ça fait mal. Hein.
Voilà. Daniel Gilbert, comme on a déjà évoqué un peu la question du bonheur tout à l'heure, et si on se faisait du bonheur à tous avec les auditeurs en vous proposant un petit sketch avec nous?
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre.
Oh là là. Ah ouais. Mais j'adore les découvertes. Mais
je le savais. Et on s'est dit, mais il faudrait qu'il y ait midi première aujourd'hui, parce que évidemment, ça nous manque. Alors, il y a des artistes que vous n'avez pas eu. C'est l'occasion de se rattraper. Vous êtes Daniel Gilbert.
Si vous avez besoin de vos lunettes, prenez votre temps, Daniel.
Je ne sais pas.
Bon, écoutez, testez.
Je vais voir, regardez. Il y a de la lumière.
Ouais, on
ça
est
doit
bien
aller,
aussi. Donc, ouais. Puis le rôle n'est pas trop difficile à emprunter puisque c'est Daniel Gilbert, le rôle. Donc,
mais c'est pas mon rôle préféré.
Ah, fallait téléphoner hier pour le rôle.
Et puis d'abord, c'est pas un rôle.
Mais quand même, là, vous allez voir que oui, on se rend sur cette nouvelle émission présentée par vous en 2018. Antenne dans 3, 2, 1, c'est parti!
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour! Ah, un spot vient de tomber, c'est pas grave. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans Midi Deuxième. Et nous sommes heureux d'accueillir notre premier invité, Monsieur Booba. Ouais, doux Monsieur Booba.
C'est ça, bonjour, comment il est?
Bah, il est bien. Il est bien. Tu nous viens d'où, Booba?
Bah, moi, je suis le duc de Boulby, quoi, moi. Hein, c'est ça.
Alors, le duc de Boulby,
ouais.
Qu'est-ce que tu vas chanter?
Wesh Moray.
On dirait un nom de sauce. C'est très joli. Mais je sais pas faire la cuisine. Et ça nous met l'eau à la bouche.
Ok, je suis prêt.
Très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts en régie? Oui. Parce que je pense qu'il va chanter fort. Hein.
Okay, attends, à qui tu parles hein?
À la régie. Excuse-moi, je demande à Clarisse, mon assistante.
Clarisse, il est là, Clarisse, c'est où? Je vais péter la gueule à Clarisse.
Clarisse.
Ah.
Oh.
T'avoues encore, Daniel?
Non. Clarisse, mon assistante. Bon, elle me dit que tout est prêt. Alors, faites un tonnerre d'applaudissements pour Booba qui va nous chanter Wesh Moray.
Oh, hey, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe, Daniel?
On a un problème avec la bande. Oh, mais ça, c'est bizarre, hein, en direct. Oh, les aléas du direct, vous savez ce que c'est? Ça va trop fort. On va donc prendre une autre invitée qui va au moins nous endommager les buffles.
Les
baffles.
Ah, les bifles.
Les bifles. Non, un baffle. Ah. Oh, bonjour, Juliette.
Bonjour.
Oh, alors, tu es en tournée dans toute la France? Tu as des dates à Paris? Ah, oui, bien sûr. Et maintenant, que vas-tu nous chanter? d'accord. Alors, pardonnez-nous, mais on est en direct. On va vérifier le micro de Juliette.
Très bien.
Oui, oui, il ne fonctionne pas bien. L'occasion de recevoir des légendes de la scène française. C'est un duo que nous recevons. Vous vous appelez NTVL. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Et ça veut dire quoi ? NTM.
Nique ta mère.
Ah, très bien. Ouais. Toujours ce rapport affectueux à leur maman. Ouais. Oh. Et vous allez nous interpréter votre nouveau 45 tours qui s'intitule
Suce-moi là.
Ah, très bien. Quel programme. Nous aimons beaucoup cela. Les chansons d'amour. On applaudit très fort NTM qui nous interprète.
Merci beaucoup Daniel Gilbert. Perdu, Daniel Gilbert. Merci Daniel Gilbert d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle la sortie de votre livre Il faut que je vous raconte chez Talent Édition. Merci beaucoup Daniel Gilbert.
C'est moi qui vous remercie.
On vous embrasse.
Plein de bisous.
Merci. Merci.